Bonjour à tous et bienvenue dans Espace de Travail, notre émission un peu intermittente consacrée aux conditions de travail. Aujourd'hui, on s'intéresse à 1 800 000 salariés et leurs 159 000 employeurs, qui sont des employeurs un peu particuliers puisqu'il s'agit d'associations. En fait, on va s'intéresser à la façon dont on travaille dans les associations. Normalement, ou sur le papier, ça pourrait être un job de rêve. On travaille pour une cause, avec des gens qui partagent ses motivations et ses rêves, pourrait-on dire, peut-être. Dans la réalité, c'est un peu plus difficile que ça. Il y a beaucoup de désillusions. Les déceptions et les difficultés sont assez nombreuses et on va en parler avec nos invités. Alors, Simon Cotin-Marx, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle « C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif ». Et Frédéric Amiel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes militant dans le syndicat bien nommé ASSO, qui dépend de l'Union syndicale solidaire. Vous en avez été le secrétaire général et ça fait de longues années que vous travaillez dans des associations, alors Emmaüs, Greenpeace et aujourd'hui les Amis de la Terre, dont vous êtes le coordinateur général. Alors je ne trahis pas de secret en disant que vous vous connaissez bien, l'un a même sans doute relu le livre de l'autre, je crois. Donc voilà, on commence peut-être tout simplement, Simon Cotin-Marx, avec l'anecdote que vous livrez en ouverture de votre livre. Vous dites que vous avez vous aussi travaillé dans une association et que ça ne s'est pas très bien passé. Et on a l'impression en fait que tout était déjà là, quoi. C'est-à-dire c'est des conditions de travail difficiles, mais pour la bonne cause.
Oui, c'est ça. Donc c'était il y a une dizaine d'années, et ça qui m'a donné d'ailleurs envie de faire de la recherche ensuite et de travailler sur ce sujet. Donc c'était il y a 10 ans et j'ai fait un service civique, donc c'était payé 550 € par mois. C'était une association vraiment géniale de quartier, militante, qui voulait changer le monde. Et sauf que le premier jour de mon travail, c'était en plein hiver, il faisait moins 10 degrés dehors. Et j'arrive dans mon bureau, la fenêtre est murée, il n'y a pas de chauffage, donc ça gèle. Mon ordinateur est une antiquité et concrètement, je ne sais pas ce que je dois faire de mes journées. Et je discute avec mes collègues et je me rends compte que c'est la même situation pour la plupart. Ils n'ont pas de fiche de poste, tout le monde travaille un peu n'importe comment. Et en plus, tout le monde est aussi très diplômé et tout le monde est très mal payé, quoi. Et du coup, c'est le point de départ, en gros, c'est une question qui ne m'a pas quitté depuis. C'est pourquoi, en fait, il y a un tel décalage entre les valeurs affichées, l'éthique et les pratiques. Et comment on peut faire aussi pour résorber cet écart entre éthique et pratique?
Ouais, c'est vrai que c'est un point qu'on voit aussi souvent à Mediapart, où nous on travaille sur les conditions de travail. Et souvent, enfin, on a fait plusieurs articles sur des associations où on voit cet écart entre ce qui est affiché ou les pratiques ne correspondent pas tout à fait à l'éthique. Est-ce que Frédéric Amiel, c'est quelque chose qu'on retrouve en effet beaucoup dans les associations?
Oui, d'ailleurs, c'était le point de départ de la création du syndicat. C'est-à-dire que on aurait pu se dire qu'un syndicat du secteur associatif se crée autour d'une revendication, comme c'est le cas dans d'autres secteurs principaux, soit sur les questions des salaires, soit sur les questions de contrats, de mutuelles ou quoi. En réalité, la fondation du syndicat Asso Solidaire, elle part de ce constat, c'est-à-dire, mais en fait, on a complètement négligé le fait qu'on pourrait être protégé contre un certain nombre de désillusions. C'est-à-dire, on souffre, on a l'impression qu'on souffre parce qu'on se donne du mal, et en fait, souffrir, c'est normal quand on travaille pour une bonne cause. Donc, il y a une espèce de côté où on prend pas conscience qu'on pourrait atténuer cette souffrance au travail, parce qu'on a l'impression qu'elle fait partie de l'engagement. L'engagement, c'est d'accepter de souffrir pour les autres, pour l'environnement, pour la planète, pour les populations du tiers-monde, ou quoi, ça dépend où on travaille. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience d'un certain nombre de personnes, dont j'étais pas à l'époque, j'ai rejoint le syndicat un peu après, de se dire, mais en fait, un certain nombre des problèmes qu'on rencontre ont été anticipés par nos camarades qui travaillent dans le secteur privé, dans la fonction publique, et peuvent être résolus par une meilleure organisation du travail, par un meilleur respect du droit du travail. Et donc, on n'est pas obligé de souffrir à ce point-là. On a déjà suffisamment à porter quand on porte une cause militante pour pas en plus souffrir d'une mauvaise organisation ou d'une mauvaise gestion du travail salarié.
Ok. Ce qui ressort assez clairement du livre et des discussions et des échanges qu'on peut avoir sur ces questions, c'est qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. La logique politique de l'association, de la cause à servir, du monde à changer ou des populations à aider. Et puis la logique économique. Et donc vous parlez, vous, d'une entreprise associative. C'est-à-dire que quand on est salarié d'une entreprise aussi, en quelque sorte en tout cas.
Oui, c'est vrai que quand on utilise le concept d'entreprise associative, parce qu'il y a vraiment ces deux dimensions. D'un côté, en fait, l'association, elle porte un projet, et c'est pour ça que les gens la rejoignent, les bénévoles, mais aussi souvent les salariés. Et en même temps, du coup, il y a évidemment des contraintes gestionnaires qui pèsent sur le travail.
On l'a dit, il y a une forte attente, en fait, des salariés quand quand on travaille pour une association, en général, on n'y vient pas par hasard. Comment vous définiriez-vous l'attente, cette attente-là? Qu'est-ce qu'on attend de plus quand on travaille dans une association pour une entreprise du CAC 40?
Ce qui revient beaucoup, je suis un peu en train de faire passer des entretiens de recrutement, c'est le sens. Les gens, y compris des gens qui ne viennent pas du secteur associatif, qui ont déjà travaillé 10 ans ailleurs, quand ils viennent chez nous, quand ils viennent postuler dans une association, souvent ils disent « je veux qu'on travaille un sens ». Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce mot qui revient quand on fait des diagnostics de souffrance au travail. Mon travail n'a plus de sens. Et donc peut-être a fortiori, parce qu'on pourrait se dire finalement la souffrance des travailleurs dans le secteur associatif, c'est la même qu'ailleurs, mais je pense qu'elle est renforcée par le fait que ce qui précisément attirait les gens pour travailler dans le secteur associatif est ce qui les fait souffrir quand ils ont l'impression, parce que cette impression n'est pas toujours réelle, mais quand ils ont l'impression que leur travail n'a plus de sens.
C'est quelque chose que vous partagez comme analyse ?
Oui, en gros, ce que j'ai vu dans les entretiens que j'ai fait avec les salariés associatifs, c'est que aussi ce qu'il faut savoir, c'est que les salariés du monde associatif sont moins bien payés qu'ailleurs. Les salaires sont 13 à 20% plus bas que dans le secteur privé ou public. Donc, et que les salariés, finalement, ils acceptent d'avoir un salaire, une rémunération qui est plus basse, parce qu'ils ont une forme de salaire symbolique, des rétributions symboliques, qui viennent compenser ce manque de salaire. Donc, clairement, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui sont motivés pour travailler ici. Bon, c'est pas vrai pour l'ensemble des salariés, parce que plus on descend dans la hiérarchie, plus évidemment on trouve des gens qui sont venus là pour remplir le frigo, c'est un emploi comme un autre. Mais ce qu'on voit quand même souvent pour les cadres ou même quand même pour beaucoup de salariés, le fait de travailler pour la cause, pour un projet qui a du sens, c'est important, c'est ce qui les fait tenir et aller dans les associations.
Mais ce qui peut-être que ces salariés ne perçoivent pas ou n'ont pas vu, c'est ce que vous dites à un moment, c'est que c'est aussi ce monde du travail, c'est aussi l'endroit où, enfin, le lieu de conflit de travail, quoi. Donc, qui sont classiques, qu'on peut retrouver partout. Est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas attendu quand on arrive dans une association militante?
Oui, ça fait écho, c'est à ma propre expérience. C'est-à-dire que quand on va travailler dans le monde associatif, on s'attend à travailler autrement, c'est un monde alternatif. Et d'ailleurs, les employeurs associatifs portent ce discours-là, quoi. C'est pas un monde comme les autres. Sauf que, en fait, quand on regarde la réalité du travail dans les associations, y a du harcèlement moral, sexuel, il y a des organisations du travail défaillantes, il y a des gens qu'on pressurise comme partout ailleurs. Et ça, c'est une prise de conscience auquel le syndicat ASSO participe. Faire prendre conscience que le monde du travail associatif, c'est un monde du travail comme les autres.
J'ai l'impression aussi, je n'ai pas étudié finement comme tu as pu le faire, comme tu en parles dans ton livre, mais il y a peut-être aussi un effet générationnel. C'est pas pour rien qu'on est deux à se poser la question de manière différente, comme chercheur, comme syndicaliste, on a le même âge. Je crois qu'il y a aussi, on embauche beaucoup de jeunes dans le secteur associatif. Et c'est aussi ce qui attire, c'est un secteur dans lequel on peut commencer avec moins d'expérience. Bon, ça dépend des associations, il y a toujours une barrière d'entrée qui est coûteuse, mais on donne leur chance en tant que cadre, que responsable de projet à des gens qui sont assez jeunes et qui sont assez naïfs vis-à-vis du travail et du monde du travail, que ce soit dans le monde associatif ou ailleurs. Donc ça, à mon avis, c'est une des raisons de cette désillusion, c'est que c'est aussi la jeunesse des recrutements et puis le niveau de responsabilité auquel on envoie des gens qui sont très jeunes. Et la deuxième, c'est que c'est vrai qu'on entretient une espèce de côté un tutoiement très facile dans les associations, une proximité, y compris physique, dans les bureaux, avec la direction. Ils sont pas au cinquième étage, ils sont au milieu de l'open space avec tout le monde, et on a l'impression que ça va être sympa, qu'on va prendre des cafés, et que s'il y a un problème, on va se taper dans le dos pour le résoudre. Et d'où aussi la difficulté. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que les premiers conflits qu'on essayait de résoudre en tant que syndicat, on se disait... En fait, on va y aller de manière constructive. C'est-à-dire qu'on va essayer d'ouvrir un dialogue avec l'employeur. Mais en fait, à partir du moment où on pointait un problème, il y avait une crispation des deux côtés. D'un côté, l'employeur qui d'un coup se dit « D'accord, vous me considérez comme un employeur, d'accord, je vais être un patron. » Et du coup, en face, des salariés qui se disent « Ah, mais en fait, c'est pas du tout aussi sympa que je pensais, la résolution va être moins facile. » Donc, ils vont aussi se braquer. Et d'un coup, une position qui devient conflictuelle en quelques jours, quelques heures, alors qu'on avait l'impression qu'on était à deux doigts de trouver une solution. Et ça rend aussi les conflits dans le monde associatif très difficiles à résoudre.
C'est vrai que c'est la particularité des associations, enfin des entreprises associatives, c'est qu'en fait, elles appartiennent pas à un capitaliste. Enfin, il n'y a pas de capital. L'association, elle appartient finalement aux bénévoles qui dirigent l'association, donc aux membres du bureau et du conseil d'administration. Et ces bénévoles qui sont finalement les employeurs des salariés, c'est des gens qui ne sont pas venus là pour être employeurs. Ils sont venus là pour porter un projet associatif, un projet politique. Et la fonction employeur, tout ce qui va avec, hein, la gestion des salariés, des fiches de paie, de l'URSSAF, enfin, tout ça qui est très compliqué, bah, c'est quelque chose qui est inattendu. Et ils ont du mal à porter cette fonction employeur parce que ils sont pas formés souvent pour occuper cette fonction employeur. Ils ont pas forcément non plus le temps parce que c'est des bénévoles qui font ça après leur journée de travail parfois. C'est des gens aussi qui ils sont pas formés, ils sont pas aussi, ils ont pas cette expérience. Par exemple, il y a des employeurs bénévoles qui sont employeurs d'une association d'un secteur dans lequel ils n'ont pas travaillé, donc ils peuvent calquer aussi leur monde professionnel sur l'organisation du travail. Ça me fait penser à une association qui joue le rôle de syndicat du logement dans une petite ville. Le président, donc l'employeur, c'était un ancien ouvrier, et ses salariés, ils avaient énormément d'autonomie, ils travaillaient le soir, le week-end, et quand ils se sont plaints de faire des heures supplémentaires, le président dit on va faire comme à l'usine, quoi. On va encadrer votre travail, les heures supplémentaires sont interdites. Et finalement, les salariés ne pouvaient plus travailler. Voilà. Et une autre particularité aussi de ces employeurs bénévoles, c'est justement qu'ils sont bénévoles et qu'ils sont engagés. Et qu'eux aussi, ils sont là pour la cause. Et du coup, ils font aussi des injonctions souvent à leurs salariés. Moi, je viens le week-end. Moi, je viens le soir. Et pourquoi, toi, tu ne le ferais pas aussi? Et ça participe aussi à la dégradation des conditions de travail. Il y a une injonction qui est faite aux salariés, parfois pas explicite, mais à s'engager, à faire don de travail le soir. Et encore un autre cas d'employeur, et ça rejoint ce que disait Fred, j'ai rencontré aussi des employeurs associatifs, donc des bénévoles, qui ne se reconnaissaient pas du tout comme des employeurs. Ils étaient dans le déni de la fonction. Ils refusaient de l'aide. Certains disent on est camarades. On n'est pas dans une relation de travail hiérarchique. Alors que si. Et déjà, faire prendre conscience aux employeurs bénévoles que c'est des employeurs, c'est une tâche qui est pas mince. Ouais.
Qui est un rôle, un boulot de syndicat. Mais c'est vrai que ce point dans le livre est particulièrement intéressant parce que presque jamais mis en avant ou exploré, quoi. Vous parlez aussi d'associations qui regroupent des agriculteurs. L'agriculteur, il a très très peu d'expérience de ce que c'est le rapport salarié, quoi, par exemple. Donc,
oui, des agriculteurs. Et cet exemple, il est intéressant. Donc, c'est une association de promotion de l'agriculture paysanne. Et donc, le conseil d'administration est composé d'agriculteurs. Mais leur vie, c'est quand même travailler 70 heures par semaine. Et du coup, leur siège était dans une zone urbaine. Et quand leurs salariés demandent de travailler 35 heures, ils tombent des nues. Ils comprennent pas du tout ce qui se passe, quoi. Donc c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent et qui se comprennent pas, quoi.
Ceci dit, je joue mon rôle de syndicaliste aussi. J'entends bien la difficulté de l'employeur. Non, mais je voulais dire, quand on dit prise de conscience, c'est aussi prise de conscience de la responsabilité. C'est-à-dire que on entend bien cette situation. Et d'ailleurs, en tant que syndicat, on peut se retrouver aussi, nous, à employer, à rencontrer des difficultés.
Aussi des difficultés du travail dans les syndicats, les souffrances au travail dans les syndicats.
Et la difficulté à être un bon ou un meilleur employeur, en tout cas. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même un rapport économique entre l'employeur et le salarié. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dépend pour sa survie, pour son quotidien, pour payer son loyer de son salaire. Et puis l'autre qui, effectivement, est bénévole, qui peut mettre beaucoup de sens et beaucoup d'engagement dans son travail, mais a priori, non, il n'en dépend pas quotidiennement et sa famille n'en dépend pas. Et donc, à partir du moment où ce contrat est signé, qui n'est pas seulement le contrat de travail, qui est aussi le contrat moral, pour nous, il y a aussi des obligations, certaines qui sont formalisées dans la loi, d'autres qui relèvent de notre vision des rapports dans la société, à s'assurer que le travail est fait dans des bonnes conditions et que les salariés sont protégés de certaines dérives, de certains abus, de la part de l'employeur, de la part d'autres salariés, de la part d'usagers des associations. En fait, il y a aussi une quantité énorme de champs d'activité des associations qui multiplient les questions à prendre en compte et qui multiplient peut-être la difficulté pour les employeurs, mais aussi leur responsabilité vis-à-vis de leurs salariés.
C'est sûr que cette obligation de sécurité qui est un peu une base du contrat salarié, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et à l'inverse, pour les salariés, est-ce que vous diriez, Frédéric Amiel, dans votre expérience, que la part des choses entre l'aspect militant et l'aspect travail salarié est facile à faire? Est-ce que on rencontre souvent des salariés qui nous disent oui, mais là, je viens le dimanche, mais c'est parce que je suis militant, j'en fais en plus, ou je ne vois pas comment je pourrais faire moins.
Non, c'est très compliqué. Et ça explique sans doute aussi l'émergence tardive des syndicats dans le secteur. Ouais. pour être tout à fait honnête, on n'était pas les premiers, mais je pense qu'on était les premiers à essayer d'avoir cette spécificité associative très marquée dans la construction de notre champ de syndicalisation. Et ça a suscité aussi beaucoup de réactions chez des amis, chez des collègues, chez des anciens collègues, la création de ce syndicat qui nous disait « mais vous ne croyez pas que le monde associatif est déjà suffisamment en difficulté, et vous allez rajouter une difficulté supplémentaire en prenant l'association entre les salariés d'un côté et les financeurs de l'autre et l'État d'un troisième ». Donc ça c'est une difficulté et d'ailleurs on avait en rigolant un des premiers noms qu'on avait proposé pour le syndicat c'était le syndrome de Stockholm. On disait mais en fait on adore notre preneur d'otage patronal parce qu'on aime nos associations, on aime les causes pour lesquelles on travaille, on a de l'affection pour les personnes qui occupent les postes de responsabilité, mais parfois on ne se comprend plus et on a l'impression qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. Et d'où ce travail aussi de construire petit à petit la conscience des salariés qu'ils ont des droits et qu'ils et elles peuvent les faire valoir et se protéger, et des employeurs et des employeuses qu'ils ont des devoirs, que ces devoirs ils sont inscrits dans la loi, qu'il y a des outils à leur disposition et qu'il leur appartient de s'emparer de ces outils pour se former, pour s'auto-former, pour se former entre eux, pour ensuite être capable de répondre à leurs obligations.
C'est vrai que vous parlez de la réaction du milieu associatif à la création d'un syndicat, c'est quelque chose qui m'a frappé. La difficulté à prendre la parole. Alors, il y a des livres, notamment, qui sont sortis, qui sont très intéressants. Là, j'en ai quelques-uns sous les yeux, qui sont toujours anonymes. Donc, en 2000, le livre noir de l'association France Terre d'Asile. En 2017, un livre sur l'association Cocopelli, qui s'appelle Nous n'irons plus pointer chez Gaïa. En 2020, Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation au milieu associatif, signé également par deux travailleuses anonymes. En 2017 et en 2020, j'ai déjà essayé moi-même d'inviter ces personnes et c'est vraiment pas évident. Et j'ai l'impression que c'est le cas donc c'est une question pour tous les deux. C'est comment est-ce que quand on est travailleur de ce milieu-là, on prend la parole? Ça a l'air assez compliqué.
C'est vrai qu'en gros, pour répondre un petit peu, c'est que la posture salariale, en fait, elle est compliquée, mais c'est ce qu'a expliqué Frédéric Amiel, c'est que quand on est salarié et qu'on commence à parler de ses droits du travail, et bien finalement, quand on demande être payé correctement, quand on demande avoir des conditions de travail décentes, finalement, et bien ça veut dire, et en tout cas les employeurs voient ça comme une attaque au projet, quoi. Et les salariés aussi, ils ont du mal du coup à revendiquer, parce que s'ils en font un peu moins, s'ils travaillent moins, finalement, c'est le projet qui va en pâtir. Donc c'est vraiment une des difficultés de ce monde associatif. Quoi.
Effectivement, moi c'est quelque chose qui m'a frappé. Il y a un autre livre comme ça qui s'appelle La souffrance en milieu engagé de Pascal Dominique Russo où elle m'avait interrogé et je me suis rendu compte qu'on était deux à être cités sous notre nom avec le nom de nos associations sur la dizaine de personnes qu'elle avait interrogées. Et alors je me l'explique de deux manières. La première c'est d'abord que peut-être moi j'ai de la chance aussi, c'est-à-dire que si j'accepte de dire pour qui je travaille et de témoigner en mon nom, c'est aussi parce que je crains pas mes employeurs, je crains pas de représailles, je crains pas d'animosité, ou peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, j'ai pas eu à m'en plaindre d'ici là. Donc sans doute, moi, j'ai eu de la chance de mon côté. Mais d'un autre côté, j'ai aussi fait un chemin où je m'autorise à le faire. J'ai pas l'impression de mettre ces associations en difficulté. J'ai bien conscience que ça peut servir à des ennemis de la cause qui, à un moment donné, vont dire « Ah bah super, vous respectez pas le droit du travail, etc. » Mais à mon sens, il faut pas... Enfin, l'importance de témoigner, ça fait partie du travail syndical aussi. C'est pas seulement défendre les droits des travailleurs, des travailleuses dans l'entreprise, défendre des conditions de travail, des salaires, etc. C'est faire évoluer la société. Et si on avait choisi d'aller à Solidaire avec Asso, c'est parce que c'est un syndicat de transformation sociale. Parce que c'est un syndicat qui veut changer la société profondément. Et pour le faire, il faut dire ce qui se passe et mettre les débats sur la place publique, et à mon sens, le plus précisément on le fait, le plus efficace on est.
Je fais une petite incise, boîte noire de Mediapart, c'est un discours que je partage pas mal, parce que j'ai été délégué syndical CGT à Mediapart pendant de longues années. Je viens d'arrêter, mais donc je me retrouve. Il fallait que je le précise un moment au passage. Il y a un point qui est aussi intéressant, qui est quand même que vous dites que ces associations peuvent aussi être des refuges pour des gens qui auraient plus de mal sur le marché du travail classique, soit des jeunes, soit des personnes plus âgées, soit des personnes jugées moins qualifiées. C'est un point quand même qu'on peut mettre en avant.
Ouais. C'est un refuge tout à fait comme vous l'avez dit. Voilà, c'est vrai que quand on enquête, on retrouve des gens qui ont travaillé dans le monde associatif et qui disent qu'ils ont toujours souhaité le faire parce que ça a du sens, mais quand on regarde, en fait, c'est des gens qui ont du mal à s'insérer sur le monde du travail ou qui se sont fait exclure, comme les personnes âgées dont malheureusement le marché du travail ne veut plus. Après, le monde associatif a été aussi construit comme un refuge. C'est ce qu'il faut voir, c'est que les associations, le monde du travail associatif a été clairement enrôlé dans toutes les politiques de l'emploi depuis les années 70. C'est-à-dire que depuis qu'il y a du chômage, en fait, plus il y a de chômage en France, plus le monde associatif crée d'emplois. C'est-à-dire que tout ce qui va être contrat aidé, il y en a eu un paquet en France, hein, les TUC, les CES, les emplois jeunes, les emplois d'avenir, les contrats d'avenir, tout ça, en fait, les associations en ont beaucoup profité. Et à chaque fois, c'est conditionné, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles embauchent des personnes qui ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Donc du coup, oui, le monde associatif est devenu un réceptacle pour ces personnes en difficulté, en tout cas pour s'insérer. Et en plus de ça, bah, ça a grandement participé aussi au développement de l'emploi dans le secteur associatif, parce qu'il a été beaucoup sollicité ces dernières années. Si on pense aux emplois jeunes, ça a créé plus de 100 000 emplois. Et le service civique, aujourd'hui, c'est autour de ça aussi. C'est une centaine de milliers de jeunes de moins de 26 ans qui travaillent sous un contrat qui n'est pas un contrat de travail, payés un peu moins de 600 euros dans le monde associatif. Et clairement, c'est une politique qui, officiellement, vise l'engagement des jeunes, mais en réalité vise aussi à mettre en activité ces jeunes et à faire baisser les chiffres du chômage.
Ouais, vous me servez là. Bon, allez-y, mais justement sur ce point, vous me servez la transition sur un plateau, à savoir que l'État a un rôle, ou le service public au sens large, a un rôle très très fort dans la vie et l'organisation des associations. Quoi.
Mais c'est ça, c'est vraiment un des éléments passionnants du livre de Simon, y compris, enfin, pour quelqu'un comme moi qui est, je dirais, au contact de la réalité des problèmes individuels des personnes dans les associations. D'un coup, on prend un recul. Et c'était déjà le cas dans ton précédent livre à la découverte sur la sociologie du monde associatif, c'est-à-dire comment est-ce que en fait il y a une histoire derrière. Il y a pas, c'est pas un hasard, c'est pas une succession d'erreurs individuelles ou d'errements dans les associations qui nous amènent là. C'est aussi le résultat d'une politique d'utilisation du secteur associatif depuis le début des années 80 pour essayer d'absorber une partie du chômage, etc. Et qui explique aussi la situation dans laquelle on est. Et c'est un des reproches que moi je fais aussi aux employeurs associatifs, au-delà de leurs responsabilités à l'intérieur des organisations, c'est les employeurs associatifs comme structure organisée. C'est-à-dire que depuis le début où je me suis intéressé au syndicalisme associatif, à l'époque j'étais en service civique, ancienne formule, et il y avait ce qui s'appelle aujourd'hui le mouvement associatif, qui est une espèce de fédération des fédérations, qui rassemble toutes les fédérations d'associations presque en France, qui était en train de négocier cette nouvelle mouture des services civiques. Il se trouve que j'avais la chance d'être en lien directement avec une des personnes qui siégeait dans cette commission, dans l'association où j'étais à l'époque. Je disais, mais pourquoi vous vous battez pas pour que l'augmentation augmente au lieu de diminuer? Ah oui, mais du coup, ils vont pas vouloir. Mieux vaut qu'on ait le service civique avec un salaire plus bas que le dispositif soit supprimé parce qu'il nous est trop utile. Et c'est un peu l'acheté général du monde associatif structuré, de sa représentation auprès du gouvernement, à défendre une qualité de travail, à se battre pour les salariés. Pour moi, elle est problématique. Et elle est, je sais pas si elle est liée au fait que c'est surtout des bénévoles qui siègent dans ces instances, si elle est liée au décalage classique entre décideurs et puis et employés salariés dans le monde. Mais à mon avis, tant qu'on n'a pas aussi des relais plus puissants au niveau de la représentation des employeurs associatifs auprès de l'État, on ne changera pas la donne. Et la donne, aujourd'hui, c'est effectivement des appels de marché, des appels de projets, une tutelle de plus en plus forte de l'État sur les projets associatifs qui méritent d'être financés et ceux qui ne méritent pas d'être financés. Une marchandisation, aujourd'hui, du financement du monde associatif qui est terrible et qui est en train de tuer des secteurs entiers de l'action associative.
C'est important, là, ce point de la marchandisation. Alors, vous dites à un moment que voilà, les salariés sont la variable d'ajustement de négociation entre l'État qui finance et les associations qui doivent remplir des missions. Quoi.
Ouais. Et du coup, pour revenir un petit peu en arrière dans l'histoire, en gros, dans les années 80, il y avait simplement 600 000 salariés. 30 ans plus tard, il y en avait trois fois plus, 1,8 million. Et en gros, pourquoi il y a eu ce tel développement? C'est que l'État et les collectivités locales ont délégué des missions de service public aux associations. Donc les associations réalisent des missions d'intérêt général financée très largement par les pouvoirs publics.
Peux-tu donner des exemples ? Ça veut dire quoi, mission d'intérêt général ?
Bah, ça va être tout le secteur sanitaire et social, sur le handicap, l'aide sociale à l'enfance, il y a aussi des cliniques qui sont associatives, il y a tout le secteur de l'animation socioculturelle qui est aussi associatif, il y a beaucoup de politiques de l'environnement, de la petite enfance.
C'est très large.
C'est très large, voilà, c'est énorme. Du coup, les associations ont pris en charge ces missions, mais ce qu'on, du coup, je rejoins Fred là-dessus, c'est que elles ont pris en charge ces missions, elles ont besoin d'argent pour le faire, mais là, on se rend compte que les pouvoirs publics ne financent pas suffisamment ces missions, et que ceux qui payent les pots cassés, finalement, c'est les travailleurs associatifs, quoi. Quand les financements baissent, c'est les salaires qui baissent, quoi. Et les employeurs associatifs, les bénévoles, bah, se posent pas cette question. Leur objectif, eux, c'est de mener à bien leur mission. Mmh. Finalement, les bénéficiaires de leur action sont plus importants que les gens qui le mettent en œuvre. Donc, c'est légitime, mais du coup, là, l'idée de ce livre aussi, c'est bah, il faut penser le travail, hein, faut arrêter de le mettre de côté, faut que les associations s'en saisissent. Ouais. Et là, on le voit, de toute façon, déjà dans le sanitaire et social, là, c'est tout un secteur qui est en pleine crise, parce que les conditions de travail sont telles qu'ils ne trouvent plus de salariés. Les gens veulent même plus venir travailler dans ce secteur.
Et qui finance les associations de ce secteur, bah, ce sont les collectivités locales qui passent des appels d'offres. Et très souvent, nous, on entend souvent que bah, oui, ce qui compte finalement, c'est combien ça va coûter, donc combien on va payer les gens qui font le travail. Quoi.
Ouais. Et, oui, et ça, c'est depuis la crise de 2008, il y a eu cette grande transformation. C'est qu'avant, les associations étaient subventionnées, c'est-à-dire qu'elles proposaient un projet et ensuite elles étaient financées pour le réaliser. Et aujourd'hui, on est passé à une logique de marché public, comme l'a dit Fred. Et cette logique de marché public, c'est l'État, les collectivités locales qui définissent le projet et non plus les associations. Les associations sont des prestataires. Et il y a souvent on retrouve cette volonté de faire des économies aussi de la part des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et encore une fois, ces économies, c'est les salariés qui, les bénéficiaires au final qui.
Et c'est là qu'on fait le lien avec ce qu'on disait au début de la discussion sur la perte de sens. C'est-à-dire que si vous êtes dans une association qui est censée accompagner les gens pour faire respecter leurs droits au logement, etc., donc vous faites du conseil juridique à des usagers, et puis un jour on vous dit on a une subvention, mais par contre c'est pour animer le carnaval du quartier. Et puis d'un coup vous vous retrouvez à organiser, c'est même pas des exemples au hasard, c'est des situations réelles, hein, c'est arrivé dans une association. Il y a plein d'exemples comme ça. Et de gens aujourd'hui dont la fiche de poste est déterminée par les contrats de financement qu'on a obtenus, et pas par une réflexion globale de l'association sur le rôle qu'elle entend jouer, cette association, dans la société, et du coup, comment est-ce qu'elle va le décliner avec des activités portées par des salariés. Et ça pèse beaucoup dans la perte de sens que peuvent ressentir les travailleurs et travailleuses du secteur.
Okay. Vous avez tous les deux utilisé, peut-être pour terminer, le mot « marchandisation ». C'est quand même un mot très fort, et c'est-à-dire que c'est dans la réalité du travail aujourd'hui dans une grosse asso ou dans une petite asso, c'est quelque chose qui est prégnant, qui arrive, qu'on voit vraiment, quoi.
C'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train d'impacter, mais vraiment très fortement, le monde associatif. Rien que pour donner quelques chiffres, en 2011, il y avait un peu plus de 180 000 associations. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de 160 000. Même c'était en 2017. En fait, ce qu'on voit, c'est que les moyennes associations qui emploient entre 10 et 50 salariés sont en train de disparaître au profit d'associations qui sont beaucoup plus grosses, qui ont les moyens de répondre à ces marchés. Donc déjà, on voit que cette marchandisation, elle a un impact très fort sur le monde associatif. Elle a aussi un impact sur le travail, parce que les marchés publics, clairement, dedans, il y a aussi des objectifs précis de réalisation qui sont fixés. Et pour prendre un exemple assez récent, qui est celui du 3919, le numéro de téléphone pour les violences faites aux femmes, Emmanuel Macron a décidé de l'ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a lancé un marché public, alors qu'avant c'était une association subventionnée qui le portait. Et dans le marché public, ce qu'on voit, c'est que les appels qui durent aujourd'hui 20 minutes, ils devaient durer simplement 10 minutes, que l'association ne devait plus faire de la conscientisation, c'est-à-dire écouter vraiment les femmes qui appellent, mais vraiment les orienter. En fait, ça transformait le travail, et surtout, il y avait des objectifs. Et du coup, ce qu'on voit, cette marchandisation, oui, elle a un impact fort sur le travail, elle le dégrade. Et il y a un chercheur anglais qui s'appelle Ian Cunningham, qui a beaucoup travaillé sur cette question, sur le Royaume-Uni et le monde anglo-saxon qui est en avance sur la France. Et oui, ce qu'on voit, pour aller vite, dégradation, perte d'autonomie des salariés.
Ce qu'on peut dire, c'est que le 39-19, finalement, l'appel d'offres a été retiré suite à une émotion un peu forte portée par les associations, des féministes et certains médias.
Ouais, grâce à une mobilisation, du coup, le marché public a été annulé et aujourd'hui, ce service est encore subventionné. Sauf que, donc c'est presque un cas particulier.
Mais ça va revenir immanquablement, c'est-à-dire tant mieux si ça a été retiré, mais aujourd'hui, l'hébergement des personnes précaires, l'hébergement des personnes en exil qui cherchent refuge chez nous, l'hébergement des mineurs isolés, tout ça dépend de marché public, de marché public tarifié à la nuit. Enfin, c'est assez terrifiant parfois de voir traduit en formule mathématique des services aussi importants. Et moi, ce que j'avais jamais réalisé avant qu'on ait cette discussion, mais parler de marchandisation d'un secteur qui est par définition sans but lucratif, puisque c'est le principe des associations, ça montre quand même le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on demande à des associations dont la raison d'être est justement de ne pas faire de l'argent, mais d'être au service de la société, de l'amélioration de la société, pas forcément parce que c'est des associations militantes, parce que c'est des associations sportives, parce que c'est des associations culturelles, parce que c'est des associations de voisinage, des associations de locataires, comme on disait tout à l'heure. Tout ça sont des services que rendent les associations sans rechercher de bénéfices. Or, on leur demande, pour être financées, pour pouvoir payer leur salaire, de prouver qu'elles sont capables de faire des économies, d'être plus rentables, d'avoir une meilleure gestion économique. Et donc, à ce moment-là, on dégrade le sens même qu'a l'association dans la construction d'un pays, d'une nation comme la France depuis deux siècles.
Je crois que c'est sur ces fortes paroles qu'on va s'arrêter, parce que ça, ouais, c'est très intéressant, ça résume assez bien le dilemme et les contradictions internes, en tout cas aujourd'hui, de ce secteur-là. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Amiel, Simon Cotin-Marx, d'être venus pour notre petit espace de travail. Et je dis aux gens qui nous regardent, à très bientôt.